Enfin, aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes le dimanche de
Pâques.
Alors, il s'agit d'un jour d'une importance capitale pour les chrétiens, parce que c'est la commémoration de la résurrection de Christ. Hein. On l'a déjà rappelé dans la première partie de ce culte. Et cette résurrection est un événement historique sans précédent. Certes, la Bible, autant l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, cite des exemples, des cas d'hommes et de femmes ou d'enfants qui ont été, on va dire, ressuscités, mais ces personnes ont été ramenées à la vie pour être obligées encore de mourir après. Tandis que la différence avec Jésus, c'est que sa résurrection, ce n'est pas une simple réanimation. Jésus-Christ ressuscité, ce n'est pas un cadavre ressuscité. Il a été ramené à la vie à un tout autre type d'existence, dans un corps particulier, un corps glorifié, un corps immortel, vivant à tout jamais. Et la parole de Dieu donne cette promesse merveilleuse, à savoir que la résurrection de Christ est la garantie de la future résurrection corporelle de tous les croyants quand Jésus-Christ reviendra. N'est-ce pas merveilleux? Alors ceci dit, je vous propose ce matin un plongeon dans l'histoire. Un peu moins de 2000 ans en arrière, vers l'année 33, à peu près, hein, selon les historiens de notre ère, eh bien, nous sommes à Jérusalem, deux jours après la crucifixion de Jésus. Il est encore très tôt le matin, il fait encore sombre, et quelques-unes des femmes qui avaient accompagné Jésus pendant son ministère terrestre vont voir le tombeau où le corps sans vie du Christ avait été placé. Et là, surprise. Plus personne dans le tombeau. Comment est-ce possible? Pourtant, au chapitre 28 de l'évangile de Matthieu, le tombeau avait été bien gardé par des soldats romains, scellé. Le décédé avait été posé sur le gros bloc cylindrique qui bloque l'entrée de la tombe pour éviter que les disciples ne volent le corps. Mais il se passe un événement surnaturel, vous savez tous, un ange flamboyant roule la pierre du tombeau. Les soldats sont pétrifiés par cette vision. La parole dit qu'ils étaient même comme morts. Et ensuite, le tombeau est vide. Plus de doute, Jésus est bien ressuscité. Et je vous invite à lire un des événements qui ont suivi cette résurrection de Jésus, qui se trouve dans... qui se trouve dans Jean au chapitre 20. Jean au chapitre 20, versets 19 à 23. Jean chapitre 20, versets 19 à 23. Donc, quand vous avez trouvé, on va le lire. Jean chapitre 20, versets 19 à 23. Ah, 20, qu'est-ce que je dis ?
23.
Alors ça, c'est une erreur de ma part. C'est pas... oui, d'abord, oui, on va le lire en deux parties, effectivement. D'abord, jusqu'au verset 23. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des chefs des Juifs. Jésus vint, il se trouva là au milieu d'eux, il leur dit... Que la paix soit avec vous. Merci. Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté, et les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua. Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront effectivement tenus quittes, et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. Alors nous sommes donc le dimanche soir, Jésus est déjà ressuscité, les disciples sont barricadés dans une maison, hein, on voit ça au verset 19, parce qu'ils sont dans une situation difficile. Ils pensent que leur maître Jésus est mort, et ils ne se sentent plus en sécurité. Et voici que Jésus vient se présenter au milieu d'eux alors que la porte est cadenassée. Et après les avoir salués, il souffle sur eux pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, pour que cet Esprit les équipe en vue d'une mission particulière qui sera d'annoncer l'Évangile au monde entier. D'ailleurs, cette mission commencera officiellement un mois et demi après, le jour de la Pentecôte, hein, vous en souvenez. Voilà pour cette introduction, et la lecture qui nous intéresse le plus particulièrement est celle qui suit, à partir du verset 24 jusqu'au verset 29. L'un des douze, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur répondit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main, la main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Place ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » « Parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Nous allons arrêter là notre lecture de ce matin. Alors, dans ce passage, l'auteur de cet évangile, qui est Jean, donc, il met le focus, il se concentre sur un disciple, à savoir Thomas. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans le langage quotidien, on évoque souvent Thomas pour justifier son scepticisme. On dit « Ouais, moi je suis comme saint Thomas, je ne crois qu'à ce que je vois. » Puis il y a une dame politique, semble-t-il, avait dit « Je suis comme saint Thomas d'Aquin, je ne crois que ce que je vois. » Ce n'est pas vraiment saint Thomas d'Aquin, c'était Thomas le disciple dont il s'agissait. Et d'ailleurs, on peut être parfaitement athée, hein, pour prononcer ce type de phrase, hein, comme quoi l'Évangile a plus d'influence qu'on ne le pense dans notre vie de tous les jours. En tout cas, Thomas est un personnage qu'on a souvent tendance à considérer d'une manière négative, dans la mesure où c'est l'exemple même de l'incrédulité. Et ce matin, je propose de nous pencher d'une manière plus particulière sur ce disciple, de considérer quelques aspects de son caractère, ses réactions. Et cela nous aidera peut-être à avoir une opinion un peu différente, peut-être un peu plus indulgente, de Thomas. Et j'ai donné comme titre à ce message « Thomas du scepticisme à l'adoration ». Alors, dans le chapitre 11 de ce même évangile de Jean, il y a cet épisode où Jésus doit partir au village de Béthanie, parce que son ami Lazare est mort. Peut-être que vous vous souvenez de ce passage. Et donc Jésus est sur le point de partir à Béthanie, mais ses disciples tentent de l'en dissuader. Parce que cela pouvait être dangereux pour Jésus, parce qu'il n'y a pas si longtemps, les Juifs voulaient le lapider. Mais voici ce que dit un des disciples, Thomas, justement. Il dit « Allons-nous, allons avec lui !» afin de mourir avec lui, dans Jean chapitre 11, verset 16. Donc on voit un Thomas particulièrement attaché à son maître. Un Thomas qui est prêt à mourir pour lui. Un Thomas qui se fait le porte-parole de tous les disciples et qui fait preuve ici vraiment de courage et de loyauté. Thomas le loyal. Alors peut-être qu'au début de notre vie chrétienne, nous étions un peu comme ce Thomas, prêts à suivre le Seigneur, tout feu, tout flamme. Peut-être que nous chantons avec ferveur ce cantique qui dit « Jusqu'à la mort, je te serai fidèle ». Je ne sais pas si vous connaissez ce chant. Parfois, on a du mal à le chanter. Hein. Est-ce que ce sera vraiment le cas ?« Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles ». En tout cas, Thomas dit « Allez, on va mourir avec le Seigneur Jésus. On va à Béthanie ». Alors personnellement, moi, je sais que juste après ma conversion, je me souviens d'avoir été animé d'un zèle vraiment particulier pour le Seigneur. Et je ne ratais jamais l'occasion de témoigner de ma foi. J'avais même l'impression, entre guillemets, de vraiment marcher sur l'eau, tellement j'étais émerveillé d'appartenir à Jésus. Et je ne m'imaginais pas une seule seconde de renier ma foi ou de l'abandonner. Et Thomas, peut-être, au début, avec Jésus, il pensait la même chose. Mais pourtant, sa loyauté n'a pas résisté. À l'instar de tous les disciples, il a fini par abandonner le Seigneur quand la foule est venue pour l'arrêter dans le jardin de Gethsémane. Et quand il a vu que le Seigneur a été crucifié, quand il a vu qu'il a expiré après un grand cri sur la croix, eh bien, on peut imaginer son désarroi, Thomas. Ainsi que tous ceux qui avaient suivi Jésus. Ils avaient certainement un sentiment profond de découragement, de tristesse, peut-être de remords même, de ne pas avoir essayé plus que ça, de défendre Jésus. Pierre avait essayé, et finalement, il a renié trois fois le Seigneur. Bref, les disciples étaient désemparés, Thomas était désemparé. Et dans des situations comme celle-là, il y a plusieurs manières de réagir. Il y en a peut-être deux. La première, c'est de rechercher la présence des proches, de ressentir le besoin d'être ensemble pour s'aider à surmonter l'épreuve. Quand le bel édifice à Paris, à Notre-Dame, a brûlé, eh bien, spontanément, les gens sont venus se rassembler. Quand il y a eu des attentats aussi à Paris, les gens se rassemblent spontanément. Dans le deuil, on a besoin d'être ensemble. Et c'est visiblement la réaction de la plupart des disciples qui étaient présents dans la maison, ce fameux dimanche, ils étaient là. Ils ressentaient peut-être le besoin d'être réunis, s'encourager mutuellement, prier ensemble, simplement d'être prostrés, d'être là ensemble. Mais il y a aussi une autre manière de réagir, c'est de rechercher l'isolement. Et semble-t-il, Thomas a peut-être réagi comme cela. Selon certains commentateurs, Thomas a voulu être solitaire à un moment donné. L'un des 12, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Selon certains commentateurs, disais-je, Thomas est absent, peut-être parce qu'il traverse un moment vraiment de déprime. Déprime causée par l'absence de celui en qui il avait mis son entière espérance. Pendant que le maître était vivant, il était plein de courage. Il se sentait en sécurité, mais maintenant que Jésus est mort, l'horizon semble bouché. Les questions affluent dans la tête de Thomas. Mais alors, c'est le Messie, c'est pas le Messie, c'est plus le Messie. À quoi a servi tout cet enseignement qu'on a reçu pendant 3 ans? Qu'est-ce que je vais devenir? Quel est le sens de ma vie? Thomas est déboussolé et il s'enferme dans une solitude. Il préfère être seul et vivre sa douleur en solitaire. Et à ce moment-là, il ne pense plus aux promesses de Jésus. Quand Jésus disait plusieurs fois qu'il ressusciterait le 3e jour, on ne s'en souvient plus de ça. Ou alors on s'en souvient, mais ça ne parle plus. Et dans notre vie chrétienne, on peut aussi être à ce stade de la vie de Thomas. On peut traverser des moments de désert spirituel, suite à un deuil, suite à des épreuves. On peut traverser des forts sentiments de culpabilité à cause de nos péchés, de découragement. Et tout cela doublé de ce sentiment terrible, parfois, que Dieu nous a oubliés. Nous aimerions tellement le sentir à nos côtés, nous aimerions tellement être rassurés par la présence de Dieu, mais il a l'air d'être absent, d'être silencieux. Mais en même temps, nous connaissons l'existence de ces promesses. Mais nous n'arrivons pas à les approprier pour nous-mêmes. Nous savons bien qu'il nous a promis qu'il serait là tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous savons bien que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est des choses qu'on connaît. Mais dans certains moments, on a l'impression que ces promesses sont creux dans notre vie. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé par ces moments-là. Vous avez l'impression que ces promesses ne sont pas pour vous. Et ça nous entraîne dans un désarroi, dans une déprime, peut-être dans l'envie de s'enfermer, de s'isoler. Alors Thomas est peut-être un peu dans ce cas. La parole ne le dit pas. Mais il y a des commentaires dans ce sens-là, et je veux bien donner crédit à ce type de commentaires. Thomas est peut-être dans ce cas, il n'a plus de motivation, il n'a plus envie de prier, il a envie d'être seul, de ne voir personne, et il s'isole. Et en passant, il rate une première occasion de voir Jésus ressuscité d'ailleurs. Ensuite, au verset 25 de notre texte, les disciples informent avec joie, ils informent Thomas, qu'ils voient certainement, je ne sais pas à quelle occasion. Ils informent avec joie Thomas qu'ils ont vu le Seigneur. Nous avons vu le Seigneur. Mais Thomas répondit, si je ne vois la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place de ses clous, des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. Donc là, on voit Thomas, le sceptique. Et c'est vrai que quand on lit cette déclaration de Thomas, on est tenté de dire, mais quand même, quel incrédule ce Thomas, pas possible. Il attend des preuves tangibles avant de croire, il veut appuyer sa foi sur quelque chose de solide, sur quelque chose de concret. Mais si nous regardons de plus près les autres disciples aussi, certains en tout cas ont réagi pratiquement de la même manière. Matthieu 28, 17. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Quelques-uns cependant eurent des doutes. C'est encore pire que Thomas, parce que Thomas ne l'a pas encore vu. Là, ils le voient, mais ils doutent quand même. Luc 24, 9, 11. Elles revinrent du tombeau, hein, les femmes qui étaient au tombeau. Elles allèrent tout raconter aux 11, ainsi qu'à tous les autres disciples. Mais ceux-ci trouvèrent leurs propos absurdes et n'y ajoutèrent pas de foi. Chers amis, la réaction de Thomas est une réaction, somme toute, très humaine. On veut d'abord voir pour croire. Et puis si nous analysons très honnêtement, il y a peut-être des fois où nous avons été comme Thomas. Vouloir constater personnellement les affirmations de quelqu'un qui est a priori digne de foi, avant de le croire. T'es sûr ? Attends, on va voir ensemble. Surtout quand cette affirmation semble hors du commun. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Alors revenons à notre texte, au verset 26. 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. 8 jours plus tard. Alors on peut se demander pourquoi Jésus a laissé passer encore une semaine avant de réapparaître aux disciples. Alors peut-être voulait-il laisser un peu de temps aux disciples pour apprendre à marcher un peu seuls, hein, avec leur foi nouvelle, se débrouiller un peu tout seul sans la présence du Seigneur. Mais en tout cas, cette fois, Thomas est là. Il a entendu que les disciples ont dit, voilà, on a vu le Seigneur, il est là. Il aurait pu rester dans ses doutes. Il aurait pu être indifférent aux affirmations des disciples 8 jours plus tôt. Mais, voilà, sa foi reprend un peu du poil de la bête, si j'ose m'exprimer ainsi. Il a peut-être évolué dans ses doutes. En tout cas, il est là. Et en parlant de doutes, il y a 2 sortes de doutes. Il y a des personnes qui ont l'habitude de remettre systématiquement en question toutes les informations qu'elles reçoivent. Alors, bien sûr, face à ce monde où il y a beaucoup d'intox, hein, comme on dit, hein, il vaut mieux être prudent de toutes les informations qu'on reçoit par-ci ou par-là, notamment sur Internet. Mais il y a des gens qui mènent une vie de doute, parce qu'ils ne veulent pas croire à autre chose à part leur conviction personnelle. Ils doutent, mais en fait, ils ont déjà leur idée bien ancrée et personne ne leur fera changer d'avis. Et dans une de ces paroles, Jésus décrit certaines personnes comme étant tellement obstinées qu'elles ne se laissent pas convaincre, même pas par un mort qui revient à la vie. En Luc au chapitre 16. Et à ce type de personnes, Jésus refuse de faire un miracle. Il y avait des pharisiens, des spécialistes de la loi qui doutaient, hein, de la messianité, hein, de Jésus, qui doutaient que Jésus était véritablement le Messie, qui lui demandaient de prouver qu'il est le Messie en faisant des miracles. Hein, dans Matthieu chapitre 12, verset 38. Et connaissant leur cœur, Jésus n'a pas accédé à leur demande parce que leur doute était empreint d'une espèce d'obstination à ne pas croire. Et l'autre aspect du doute, c'est le doute honnête. Je m'explique. Il y a des personnes qui doutent, certes, mais qui en même temps sont prêts à revoir leur position, qui sont prêts à persévérer dans leur recherche de la vérité. Et les doutes de Thomas, semble-t-il, sont des doutes plutôt honnêtes. Depuis que ses amis lui ont annoncé la nouvelle, certes, sa réaction était de douter, mais il aurait pu effectivement persister dans ce doute, continuer à rester dans son isolement. Mais cette fois, une semaine, comme je l'ai dit tout à l'heure, après avoir entendu la nouvelle, eh bien, il est resté, cette fois, avec les autres disciples. Certainement, dans l'attente, dans l'espoir maintenant de voir Jésus crucifié. Jésus ressuscité, excusez-moi. Et ses doutes, donc, commencent à se mêler avec de l'espérance. Et Thomas, on peut dire qu'il est honnête, hein. Il est sans arrière-pensée dans ses doutes, dans ses questionnements. Et après, qu'est-ce qui se passe ? verset 26-27, le Seigneur se présente à nouveau devant les disciples. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Puis, il dit à Thomas, « Place ton doigt ici. Vois mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Jésus n'était pas là quand Thomas a exprimé ses doutes. Mais il savait exactement ce qu'avait dit Thomas. Et il s'adresse personnellement à lui pour lui apporter des réponses personnelles à ses questionnements personnels. Et le Seigneur, il est comme ça. Il se soucie personnellement de l'homme parce qu'il nous connaît par notre nom. David disait dans un de ses psaumes, le psaume 8, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te soucies de lui ?» Manière de dire, nous avons de la valeur aux yeux de notre Seigneur et il sait exactement quels sont nos doutes. Et là, le Seigneur Jésus aurait pu se montrer sévère à l'égard de Thomas pour ses doutes. Il aurait pu lui faire des reproches. Mais il n'en est rien. Il se montre compréhensif avec son disciple. Il comprend ses doutes, mais il sait aussi que Thomas est sincère dans sa recherche de la vérité. Il sait aussi que Thomas est malgré tout resté loyal au disciple, loyal au Seigneur. Parce qu'il connaît mieux que quiconque ce qu'il y a dans son cœur. Dans la Bible, notamment dans le livre des psaumes, beaucoup de psalmistes expriment ouvertement leurs doutes. Il y a beaucoup de psaumes comme ça. Le psaume 13, par exemple, qui dit « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?» Cependant, il ne doute pas de l'existence de Dieu. Il s'inquiète, il s'interroge sur l'absence de Dieu, sur le silence de Dieu. Ils ont l'impression que Dieu les a oubliés. Et tout en exprimant leurs doutes, quelque part, ils s'attendent quand même à ce que Dieu intervienne en leur faveur. Et il se peut que nous soyons dans cette situation aujourd'hui, frères et sœurs. Et si c'est le cas, le Seigneur nous connaît et nous comprend. Il nous connaît, il connaît nos doutes. Vous savez ce chant qui dit « Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, ce qui te fait mal et te trouble chaque jour. » Peut-être que parmi nous aujourd'hui, il y a des personnes chaque jour qui sont troublées par ce qui leur arrive. Mais Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Même s'il semble silencieux, même si le temps de ce silence nous semble long, Dieu est à l'œuvre. Pour Thomas, le temps du silence a duré environ une semaine. Et nous aimerons aussi qu'en une semaine, tous nos doutes, tous nos questionnements puissent être levés, n'est-ce pas, quand vient l'épreuve. Mais Dieu a son temps. Et il a déjà fixé le temps où il répondra personnellement à nos doutes et à nos questions. Il a déjà fixé ce temps. Conclusion, Thomas croit. Il passe des doutes à la certitude et il passe même des doutes à l'adoration. Voici ce qu'il répond en voyant Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu. Cette confession de Thomas constitue vraiment le point culminant de l'Évangile parce que c'est la proclamation de la divinité du Messie, de la divinité de Christ. Entre parenthèses, les témoins de Jéhovah, pour ceux qui le connaissent, qui nient la divinité de Christ, considèrent que ce passage, cette exclamation, c'est comme une exclamation de tous les jours, comme quand les gens disent « Oh mon Dieu !» Ce n'est pas du tout ça, ils sont complètement hors contexte. C'est une déclaration, une proclamation, une confession de la divinité du Christ. Jusqu'ici, la foi de Thomas a été basée sur Jésus, le faiseur de miracles, sur Jésus, l'homme rempli de sagesse, d'amour, sur Jésus, le maître charismatique qui rassemblait toute une foule. Une fois que Jésus est mort, tout s'écroule. La foi est ébranlée, la foi de Thomas. Il doutait avant, et maintenant, quand il voit Christ ressuscité, il proclame qu'il est son Seigneur et son Dieu. Maintenant, il comprend tout. La vision du ressuscité donne à Thomas une nouvelle dimension de sa foi. Une foi qui va être transformée, et qui va d'ailleurs aussi transformer profondément la vie de Thomas. La tradition chrétienne raconte que Thomas serait allé évangéliser jusqu'en Inde, un infatigable évangéliste, et qu'il aurait été tué, donc en martyr, transpercé par une lance. En tout cas, sans la résurrection, frères et sœurs, notre foi, elle est incomplète, elle est vaine. Sans résurrection, nos convictions se transforment en désespoir. On peut comprendre, connaître l'enseignement de Jésus, mais si Jésus n'est pas ressuscité, on ne sait pas quoi faire de cet enseignement final. Une philosophie de vie. Pas intéressant. Et nos péchés. Sans résurrection, nous sommes encore dans nos péchés, dit la parole de Dieu. Sans aucun espoir d'avoir l'assurance du pardon. Et sans résurrection, Thomas, nous l'avons dit tout à l'heure, il était le plus malheureux des hommes. Et nous avec, en 1 Corinthiens 15. Alors de nos jours, nous ne voyons pas physiquement Jésus ressuscité, nous ne pouvons pas toucher son côté ou ses mains, mais nous pouvons nous appuyer cependant sur un témoignage absolument digne de confiance. Et quel est ce témoignage, frères et sœurs? C'est le témoignage de la Bible, c'est le témoignage des évangiles. Et c'est dans ce sens, d'ailleurs, que Jésus affirme au verset 27, le dernier verset de notre passage, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Là, c'est une phrase, certes, qui s'adresse à Thomas dans le contexte immédiat, mais c'est une phrase qui a une portée bien plus large. Elle s'adresse à tous ceux qui entendront le message de l'Évangile sans avoir forcément vu physiquement le Seigneur ressuscité. Et il y en a eu beaucoup, beaucoup après, qui sur le seul témoignage des apôtres ou après le témoignage de la parole de Dieu, de l'Évangile, se sont convertis, se sont tournés vers Jésus, parce qu'ils ont été convaincus du message de l'Évangile, du message de vie de l'Évangile. C'est une phrase qui s'adresse à Thomas, certes, mais c'est une phrase qui s'adresse aussi à nous, ce matin. Et il s'adresse à nous à deux niveaux, d'ailleurs. D'abord, aux chrétiens, notamment ceux qui traversent peut-être par des périodes de doute, afin qu'ils soient fortifiés, afin qu'ils soient assurés que le Seigneur est là, qu'il ne nous oublie pas et qu'il a déjà fixé ce temps où nous aurons des réponses à nos questions. Mais en attendant, ceux qui passent par ces moments difficiles sont encouragés à tenir bon, parce qu'ils sont bien heureux à cause de la résurrection de Christ malgré tout. Ils sont encouragés à persévérer dans leur foi. Il y a une parole de Christ dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 10, qui dit « Sois fidèle jusqu'à la mort. » C'est Christ ressuscité qui parle. « Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. » Et le Seigneur demande de mettre toute notre foi en lui, même si nous ne savons pas où il nous conduit, même s'il semble absent, même s'il semble silencieux, il nous demande de persévérer dans notre foi. Et ce message s'adresse aussi à tous ceux qui hésitent encore à donner leur vie à Christ. Et ce matin, c'est peut-être une occasion de saisir ce salut qui est offert. De reconnaître nos fautes, de mettre toute notre confiance en celui qui est mort, justement pour nos fautes, mais qui est ressuscité et qui est vivant, qui siège aujourd'hui à la droite du Père. Qui est vivant et qui nous garantit aussi que si nous mettons notre confiance en lui, nous serons aussi ressuscités avec lui. Nos péchés sont pardonnés, nous avons la vie éternelle et un jour, nous aurons un corps glorifié comme lui. Que ce message puisse vraiment nous toucher ce matin et que si nous entendons sa voix, nous n'endurcissions pas notre cœur, comme dit la parole dans Hébreux chapitre 4, verset 7. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Ta parole aujourd'hui qui nous rappelle que tu es ce Dieu, tu es Dieu, et que tu es vivant au siècle des siècles. Merci pour l'exemple de Thomas, auquel nous pouvons éventuellement nous reconnaître, Seigneur, ce matin. Quand nous doutons de toi, quand nous sommes dans le découragement et que nous ne savons plus où tu es, si tu es encore là, si tes promesses sont encore pour nous, Seigneur, que tu nous fasses du bien. Que tu montres, Seigneur, que tu es ce Dieu qui ne nous oublie pas. Que nous puissions, Seigneur, avec la force de ton esprit, persévérer dans la foi, dans notre foi en toi. Tu nous demandes, Seigneur, de garder ce que nous avons. Et que, Seigneur, cette persévérance paiera un jour. Merci Seigneur pour l'assurance de la vie éternelle pour celles et ceux qui t'appartiennent. Merci de cette perspective de te revoir un jour, toi le ressuscité, d'être à tes côtés, de te louer éternellement. Ô Seigneur, en attendant, aide-nous à marcher selon ta volonté. Soutiens-nous dans notre faible foi sur cette terre. En ton nom, Jésus. Amen. Amen.